Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada. CKUT.
CKUT, Henry Grimes. And stay tuned for more of the most aesthetic things, feelings in the world.
La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente aujourd'hui à cette rencontre avec Alice Coffin. Je me présente, Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Le Réseau est un organisme communautaire en défense collective des droits qui œuvre depuis 1996 auprès des communautés lesbiennes. C'est un interlocuteur principal auprès des différentes instances décisionnelles en ce qui a trait à la qualité et la condition de vie des diverses communautés lesbiennes à travers le Québec. Le RLQ regroupe les femmes de la diversité sexuelle, c'est-à-dire les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans, sexualité fluide, bispirituelle, biromantique, asexuelle et plus encore à travers toutes les régions du Québec avec ou sans handicap et différentes culture. Le RLQ est un lieu de militantisme, de rassemblement et d'analyse et de réflexion politique. Aujourd'hui, on vous présente cette rencontre avec Alice Coffin dans le cadre d'une campagne qui se nomme Les 12 jours contre les violences faites aux femmes, qui est organisée par la Fédération des femmes du Québec. Suite aux différentes réactions qui ont été en lien avec le livre Le génie lesbien, on s'est dit que c'était un très bon moment pour présenter Alice Coffin dans un milieu sécuritaire, évidemment, et qui va redonner un peu de pouvoir à nos communautés. Donc, c'est ça. J'aimerais faire une petite commémoration. Aujourd'hui, on se souvient, il y a plusieurs années, il y a eu l'attentat en 89 de 14 femmes, un féminicide à la Polytechnique de l'Université de Montréal. Donc, on veut juste nommer ces femmes qui voulaient sortir justement d'un régime un peu patriarcal, donc qui ont été tuées en lien avec le fait que les femmes sortent dans l'espace public. Donc, on aimerait se remémorer ça, car encore aujourd'hui, les violences faites aux femmes sont très importantes et les chiffres sont en augmentation. Sur ce, on va vous présenter Alice Coffin. C'est Julie Vaillancourt, directrice des communications au Réseau des lesbiennes du Québec et journaliste au feu qui va entretenir Alice Coffin, ainsi que Nathalie Dupalma, qui est la présidente du Réseau des lesbiennes du Québec, animatrice de l'émission radio Les Beaux Sons et qui est militante depuis plus de 25 ans dans la communauté. Donc, je vous souhaite une très belle rencontre avec Alice Coffin et au plaisir de vous revoir. Merci d'être ici en très grand monde et merci, Alice, d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Julie. Et bonjour et merci d'être présente en si grand nombre. On a la chance de recevoir Alice Coffin, qui est une figure centrale des luttes féministes et LGBT françaises et internationales. Elle contribue depuis plusieurs années à renouveler la réflexion et les pratiques journalistiques. Elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT, la Conférence européenne lesbienne, la Ligue lesbienne d'intérêt général et Elle est activiste au sein du collectif féministe La Barbe. Elle enseigne par ailleurs à la Sorbonne et elle enseignait le journalisme à l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui sera l'occasion de s'entretenir avec l'autrice française au sujet de son livre « Le génie lesbien » qui est paru en septembre dernier. Et l'ouvrage a déclenché une polémique en France, mais également des violences à l'encontre de son autrice, alors qu'il fut récemment distribué au Québec. Nous désirons ouvrir la voie à cet ouvrage lesbien et féministe en lui donnant la parole. Bonjour et bienvenue à l'Escoffin.
Bonjour, merci beaucoup. Je suis super contente de discuter avec vous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci, merci d'être là et puis merci pour cette invitation.
Merci. On a une myriade de questions. On a beaucoup de questions, Nathalie et moi. On a aussi des questions du public là, qu'on a gardées pour la fin aussi. Donc, on va commencer tout de suite pour cette prochaine heure, peut-être cette prochaine heure et demie. Ça dépend si on jase beaucoup. Donc, on va discuter de l'ouvrage, des idées qui véhiculent, de leurs répercussions sociales aussi, sans oublier votre parcours. D'abord, félicitations pour cet ouvrage-là. Donc, d'une grande pertinence. Un propos qui allie le personnel au politique, comme disaient les féministes. Donc, c'est journalistiquement pertinent aussi parce que vous contribuez, et je vous cite, là, à mettre au jour un petit bout de continuum de l'oppression machiste. Et sans oublier aussi toute l'allusion au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui a publié son ouvrage à 41 ans, comme vous, avec le génie lesbien. Donc, c'est super intéressant. Donc, parlons un peu du titre du livre. Le titre d'un livre n'est jamais vain. Puis, dans ce cas-ci, c'est pratiquement un geste politique en soi. Donc, mettre le mot génie hein, et lesbien au sein de la même phrase avec votre visage sur la couverture, c'est un acte de courage. D'autant plus quand on lit ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, ma question, en opposant le suffixe génie au mot lesbien, est-ce que vous croyez que vous aviez déjà la recette pour choquer les gens? Et est-ce que la réaction très médiatisée, selon vous, découle de la contraction de ces deux mots?
Oui. Je pense que le titre joue beaucoup. En tout cas, il y avait une volonté très claire, moi, que ce soit ce titre-là sur la couverture. Et les échos que j'ai hein, des lectrices montrent qu'il y a un côté très performatif au titre qu'en soi, avoir la couverture d'un livre publié chez Grasset, donc une grosse maison d'édition française, me disent « mais c'est fou parce qu'on lit dans le métro, les gens, ils regardent et tout. » Donc, il y a beaucoup de lectrices qui me disent « j'ai l'impression d'être militante juste que quand je lis le livre en public ou si je le demande à Noël à ma famille, je sais déjà qu'avec le titre de dire « je veux le génie lesbien », je peux introduire un malaise ou ça m'aide. Il y en a qui m'ont dit « oui, ça a été ma forme de coming out, en fait, de vraiment demander ce livre-là et m'y intéresser auprès de mes parents. Ah, ça voulait dire quelque chose. » Ou à l'inverse, de gens qui l'ont reçu, de proches, de parents, justement, ils ont dit « ah, ça veut dire qu'ils ont compris que ça m'intéressait. » Donc, rien que ce titre-là, bien sûr, c'était important en termes d'objet, de l'avoir vraiment de manière très visible. Et une des thématiques du livre, et puis moi, un de mes engagements militants très forts, c'est que je pense beaucoup, et notamment en France, je travaille beaucoup sur la question de la visibilité, parce que autant il y a des discussions hein, sur les politiques de la visibilité, leur efficacité et tout ça, il est très clair qu'en contexte français, ça a une pertinence énorme, qu'on n'est pas du tout encore à un stade où on pourrait un peu dédaigner ça en disant oui, c'est commercial, oui, c'est artificiel. Non, c'est très très important politiquement. Pour nous, la question de la visibilité et en particulier de la visibilité lesbienne, puisque moi je trouve que si on devait donner une définition à la discrimination spécifique qu'est la lesbophobie, c'est la visibilisation duquel découle tout, à tel point que moi, vous avez parlé des violences que j'ai pu prendre, quand je vais au commissariat déposer plainte et je dis ce sont des insultes lesbophobes, le premier truc qu'on me dit c'est qu'est-ce que vous voulez dire lesbophobe, ça veut dire quoi? Donc c'est même ça, c'est pas reconnu le mot. Donc, il y avait cette importance-là du mot et de la coller au mot homogénie parce que, et là encore, c'est un petit peu une tournure, une pirouette de tout l'imaginaire français. On aime beaucoup célébrer le génie, vous voyez, le génie du christianisme de Chateaubriand. Et qu'évidemment, enfant, moi, tous ces génies-là, bah, j'avais un truc de dire, mais alors, il faut être un homme pour être un génie. Ah non, bah non, une lesbienne, oui. Là, on est dans le génie génial. Donc, il y avait aussi cette volonté de retourner tout l'imaginaire de l'intellectualisme français et de la coller effectivement aux lesbiennes.
On sait que les mots font peur, en tout cas du moins au Québec, il y a toute une polémique sur certains mots. Est-ce que vous avez cru un instant avoir peur que, par exemple, ben, le mot lesbienne fasse peur ou fasse mauvaise presse au livre? Ou au contraire, c'était vraiment en disant, ben, ceux qui veulent pas l'acheter, ceux qui ont peur, ben...
En tout cas, c'était un signal très fort. J'avais tout à fait conscience que le fait, finalement, déjà que Une maison d'édition accepte ça, c'est-à-dire qu'il y avait ce mot-là, hein, moi quand je l'ai présenté en synopsis aux maisons d'édition, je ne s'étais pas caché, hein, c'était vraiment déjà comme ça. Et je savais que ça, c'était un signe qu'ils disent oui et qu'ils soient d'accord pour ça, parce que j'en parle dans le livre, il y a des autrices qui m'ont notamment dit, mais de toute façon, nous, rien que s'il y avait le mot lesbienne dans le titre ou dans les pages, c'était non, parce que c'était vécu comme quelque chose limite de dégueulasse, elles disent de vraiment sale, infamant, et j'en parle dans le livre de comment le mot lesbienne a été détourné, et comment il a été instrumentalisé par d'autres que nous pour renvoyer un message, alors soit effectivement qui tend vers un imaginaire pornographique de film X, si on pense aux moteurs de recherche comme Google ou autre, ou si on tape le mot lesbienne, ce qu'on va avoir, c'est des résultats qui renvoient à des sites de films porno pour hommes hétéros. Donc, c'est le comble quand même de l'instrumentalisation, c'est-à-dire si on nous prend ce mot-là pour un public qui n'est pas du tout nous, voire qui est très hostile en fait. Et puis, il y a ce côté usurpation et il y a ce côté aussi de la menace que ça charrie. Et ça, je crois qu'il est toujours aussi fort, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe des États-Unis qui s'était appelé Lavender Menace, la menace lavande, violette, couleur associée au lesbianisme, et elles avaient raison, hein, avec notamment des personnes comme Rita Mae Brown, d'associer ce mot-là parce que ça fait encore très peur, et ça, je crois que ça fait peur parce qu'ils ont raison d'avoir peur, parce que c'est encore se dire lesbienne, oser l'affirmer à la face du monde, ça reste un des plus beaux tentatives de déconstruction du patriarcat, ça reste ce qui est encore le plus fort dans le système actuel dans lequel on est, de dire bah non, nous on marche pas avec ça. Donc évidemment que ça fait peur. Et donc je savais que ça allait provoquer. Je savais pas à ce point-là. En tout cas, ce que ça montre, la réception du livre, c'est à quel point c'est extrêmement vivace et que le mot lesbienne continue à faire peur et être vu comme un instrument politique par ailleurs très puissant. Et tant mieux. Hein, mais...
Dès le premier chapitre qui est nommé Androphobie, bon, il y a tous des jeux de mots très très éloquents dans ce chapitre-là, mais vous parlez de la misandrie, hein, un vocable qui est rarement utilisé dans nos sociétés, sauf pour décrire les lesbiennes. Hein. En fait, lesbienne est pratiquement devenue un synonyme d'une femme qui déteste les hommes, alors que c'est complètement ridicule. Bon nombre d'entre elles ont de bons rapports avec les hommes, avec leur entourage, avec leur père. Puis vous en parlez d'ailleurs dans votre livre que vous avez une très belle relation avec votre père. Vous dites aussi, et je vous cite, « Des institutions, des médias ignorants et des hommes que cela arrange bien fabriquent depuis quelques années des antagonismes entre communautés lesbiennes et communautés trans ou non-binaires. De manière générale, opposer le mouvement lesbien aux réflexions sur la transidentité ou la non-binarité est un contresens absolu et obéit à des agendas bien précis. » Puis par la suite, vous parlez des lesbiennes Butch et vous dites « Les lesbiennes comme moi, qu'on appelle si souvent monsieur, les lesbiennes qui ont été mégenrées toute leur enfance. » Bref, ma question, pourquoi encore une fois on procède à l'effacement, l'invisibilisation des lesbiennes sur la question? Puis à quel agenda répondent ces oppressions?
Oui, alors moi ce qui me frappe, c'est effectivement tout est bon en fait pour procéder au fait que utiliser le mot lesbienne pour nos noms de collectifs, d'associations, moi je l'ai vécu très directement quand on a voulu fonder la conférence européenne lesbienne, il y a immédiatement des tentatives de dissuasion, même soi-disant pour notre bien, en disant « Non, mais c'est pas très malin, c'est pas très habile, vous voulez pas employer un autre mot, faire autrement. » Et je note que les arguments sont divers, et effectivement, dans ce que vous avez cité, il y a d'abord ce fait de dire « Ah, mais non, mais c'est trop associé à la détestation des hommes. » Et ça, c'est encore très vivace, c'est-à-dire que moi, dans la réception du livre, des gens comme Elisabeth Badinter, par exemple, a fait une tribune dans le journal du dimanche, en pointant immédiatement, en nommant et en disant vraiment, en faisant un signe égal entre lesbiennes égales, déteste les hommes, et je vois à quel point c'est de la rhétorique lesbophobe de base, hein, ça. Mais comme elle est toujours aussi vivace en 2020, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas beaucoup bougé là-dessus, et dans les argumentaires, ça peut être non parce que vous excluez les hommes, et là maintenant je vois qu'il y a un peu plus de modernité, ils renouvellent hein, quand même leur argumentaire. Et alors, ça va être davantage par « non, mais parce que vous, c'est trop excluant envers les questions trans ou non-binaires. » Et qu'à chaque fois, nous, on répondait « mais pas du tout. » Enfin, je veux dire, au contraire, on est bien placé pour extrêmement bien les comprendre. En revanche, mais allier des luttes, évidemment, mais en revanche, on tient au mot. Parce que ce mot-là, chaque mot a son importance. C'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait les personnes qui veulent s'identifier aussi, par exemple, plutôt comme une femme queer. Que je comprends tout. Tout est possible. Mais qu'on ne nous enlève pas à nous la possibilité d'employer ce mot lesbienne parce qu'il a un sens politique aussi. Moi, dans mon combat politique, il me sert énormément et je trouve ça extrêmement curieux et je connais très très peu en fait d'autres groupes à qui on interdit même d'employer le mot qu'ils souhaitent pour se définir. C'est quand même une tentative d'effacement qui est assez redoutable et que je trouve d'autant d'autant plus terrible de ce que je raconte dans le livre, c'est que moi, mon expérience du militantisme lesbien, c'est un militantisme extrêmement généreux et altruiste, et qui va se porter en soutien de nombreux autres combats, que ce soit aider les gays dans la lutte contre le sida, que ce soit aider les femmes ou les hommes trans, que ce soit vraiment être en soutien, et que ce soit bien plus largement que sur des questions LGBT, être des premiers soutiens envers des mouvements sociaux, envers les réfugiés. Donc à un moment, c'est formidable de constater justement ce génie lesbien de déploiement, d'une générosité, de présence au monde. Je cite Nicole Brossard dans l'ouvrage qui dit hein, « Une lesbienne qui n'essaye pas de changer le monde est une lesbienne en voie de disparition ». Mais il ne faut pas non plus se laisser, dans ce cas-là, invisibiliser. On doit aussi, parce que sinon personne d'autre va le faire à notre place, contribuer à ce que le mouvement lesbien en tant que tel, et ce mot-là, perdure.
Vous avez participé à la rencontre sur la procréation médicalement assistée à l'Élysée, où les groupes lesbiens, étrangement, n'étaient pas invités. Racontez-nous votre rencontre avec Emmanuel Macron et de quelle manière cette rencontre vous a motivé à écrire ce livre.
Oui. Alors, c'est une scène qui ouvre le livre parce que ça a été un moment très important. C'était au mois de novembre 2018, donc il y a exactement 2 ans en fait. Et effectivement, la France était toujours en train, et toujours d'ailleurs, en train de se dépatouiller sur la question de la PMA qui était dans l'agenda législatif depuis 2012, hein, donc qui aurait pu être voté il y a déjà 6 ans, maintenant 8 ans. Et à l'époque, il y a une réunion qui est organisée par la présidence de la République pour voir où on en est sur la question. Et ils invitent une vingtaine d'associations dites LGBT. Ils invitent tout le monde. Ils invitent les jeunes LGBT, les policiers LGBT, les grandes fédérations, etc. Mais ils n'invitent aucune association représentative des lesbiennes. Donc déjà, première chose, quand on parle d'invisibilisation, c'est quand même incroyable, je veux dire, que ça soit, c'est un bon signe. Donc nous, moi je me manifeste au nom de la conférence européenne lesbienne et puis avec une autre camarade qui représentait les Dégommeuses, qui est un club de foot lesbien et trans, et voilà, donc et qui parlait aussi au nom des lesbiennes. Et puis on réussit à s'incruster, hein, en fait, à la réunion, très clairement. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est que moi j'ai trouvé, et je comprends pourquoi ils ne nous ont pas invités, parce que quand on a essayé, on était un peu des survivants de dernière minute, quoi, ils nous ont récupérés. On a dit aux autres associations, bah écoutez, là, ça fait quand même 6 ans que ça dure. Donc nous, on veut une position très dure envers le président, envers Emmanuel Macron. S'il essaye de nous balader et de ne pas nous donner de date précise, il faut vraiment rentrer dans une confrontation et tout ça. Et déjà, les autres assos, ils se disent non, mais il faut respecter la parole institutionnelle. Non, mais c'est le président quand même. Faisons attention. Et là, moi, je découvre que c'est ça aussi le génie lesbien, c'est-à-dire la capacité de ne pas du tout être impressionné par bah oui, c'est le président de la République, mais nous, on a quelque chose à lui dire. Donc il y avait cette grande table. Et ça a été une confrontation très dure, hein. Moi, j'ai vraiment accusé le président de mensonge, de nous dire, parce qu'il ne nous donnait pas de date. Il continuait à dire, oui, la PMA. Il ne disait rien. Il disait, mais ça va se faire, je vous assure, mais sans aucune précision. Et toujours dans un discours très alambiqué. Et puis, le ton monte un peu. Et lui, Emmanuel Macron, il me dit comme ça, mais écoutez, vous ne vous comportez pas comme une tante, vous êtes comme des procureurs. Et d'ailleurs, moi, je vous demande de respecter le cadre de la République française. Moi, je lui réponds, mais non, mais écoutez, moi, c'est la République française qui ne me respecte pas, puisque vous voyez bien que vous, en tant que citoyen hétérosexuel, les citoyens hétérosexuels ont plus de droits que moi, citoyenne lesbienne. Donc à un moment, c'est la République française qui ne respecte pas les lesbiennes, et ce, depuis des années. Ça continue comme ça, pas de réponse, et nous sommes partis. C'est-à-dire que vraiment, un peu avant ce qui avait fait du bruit avec Adèle Haenel et le texte de Virginie Despentes, on se lève et on se barre, de partir d'un lieu, c'est exactement la même chose, de toute façon, il y a une adversité telle, il y a un tel patriarcat qui s'exerce qu'une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, il faut partir à un moment. Nous sommes partis de la réunion et 2 ans plus tard, contrairement à ce que nous disaient les autres associations qui disaient « ayez confiance », eh bien la PMA n'est toujours pas votée. C'est-à-dire qu'on continue dans ce pays à se moquer royalement des vies quotidiennes d'importance pour ce que c'est. Ça a des conséquences extrêmement direct, évidemment, dans la vie de milliers de femmes dans ce pays, que cette loi ne soit pas votée, qui ont complètement dû renoncer à leur projet d'avoir des enfants. Enfin, c'est gravissime de vraiment créer des sous-citoyennes, en fait, très clairement, quoi. Et donc, ça a été une réunion compliquée, mais moi, que j'ai trouvé aussi réjouissante. Enfin, je veux dire que nous, quand on est sortis, en même temps, on avait un fou rire, quoi. On était dans la cour de l'Élysée, on se disait, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce mec? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il ne peut pas nous parler? Pourquoi il a peur? Pourquoi on ne peut pas établir un dialogue? Et c'est vrai que je l'ai retrouvé plus tard dans d'autres actions. Je crois qu'une des forces aussi des lesbiennes sont d'avoir tellement, de toute façon on est déjà à la marge, de toute façon le système nous met à la marge de cette participation là on ne cadre pas avec l'androbsession et l'androcentrisme qui est de placer le papa au centre des foyers, le papa symbolique, le père au centre de la patrie, justement. De toute façon on n'est pas dedans dans cette histoire là donc je pense que ça nous donne aussi une force de toute façon de pouvoir le contrer, ce système là et cette réunion là elle symbolisait assez bien le sujet, selon moi. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai ouvert le livre avec.
Ça vous a motivé aussi à l'écrire?
Oui, parce que moi, le livre, c'est aussi un livre de transmission. C'est-à-dire que je trouve que c'est très important de revenir sur ces sujets-là, de raconter aussi pour les autres militants, qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi toute une partie un peu presque pédagogique dans le livre, que comment, mais ça, c'est mon expérience, et il y en a évidemment beaucoup d'autres qui sont tout à fait valables, mais comment moi, je vis le militantisme, quelles sont mes stratégies, comment je fais en général quand il y a une action politique à mener, qu'est-ce que j'ai appris du militantisme féministe et lesbien, soit à la Barbe, puis dans des associations lesbiennes, puis à l'international. Et je trouve que tout ça, on n'a pas l'occasion de le lire parce que bah, les journaux, pour eux, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que bon, cette réunion-là, il y a eu un ou deux articles, mais qui n'ont pas non plus passé des heures. Ça fait pas la une des journaux, très clairement, les questions lesbiennes. Donc si on n'écrit pas nous-mêmes cette histoire-là pour la raconter, on n'a pas d'autres moyens finalement de la connaître. Alors que je crois que bah, ce qui se passe ces 10 dernières années, que je raconte dans le livre, dans cette sphère-là du militantisme féminin et lesbien, raconte énormément de choses plus larges en plus sur l'histoire du pays, sur les forces en présence, et puis au-delà donne tout simplement des outils aussi hein, pour savoir comment mener des actions, et encore une fois il y en a plein d'autres, mais je trouve ça bien si chacune peut témoigner aussi de tout ça.
Puis en France, la réception critique de votre livre Le génie lesbien a été marquée par une profonde méconnaissance des enjeux LGBT par la presse grand public, sans compter la lesbophobie dont vous avez été victime. La polémique a surtout été créée par cette citation jugée radicale, une démarche personnelle de ne plus lire, regarder ou écouter d'œuvres créées par des hommes. Pourtant, quand on prend le temps de lire le livre, il y a une incompréhension devant la violence de ces réactions-là, car le livre est beaucoup plus nuancé que les extraits qui ont été retenus le laissent paraître. Comment avez-vous vécu ces derniers mois? J'ai eu l'occasion d'écouter quelques entrevues que vous avez données en France.
Oui, ça a été compliqué. C'est-à-dire, moi, je pensais que je savais que le livre, ça allait, il y aurait des discussions, il y aurait des désaccords, sinon je ne l'aurais pas écrit. Si j'ai prendre le temps d'écrire un livre, c'est parce que justement, je trouvais que c'était important de pointer certains verrous, certains blocages. Donc, je me doutais bien que ça n'allait pas passer comme ça. En revanche, je n'avais pas pressenti que ça allait se focaliser sur cette phrase-là où j'explique effectivement que finalement, ayant passé aussi toute ma scolarité, ma vie d'écolière, ma vie d'étudiante, dans un système où on me donnait beaucoup à lire des livres d'hommes, à écouter des musiques d'hommes, bon, bah, j'ai été bien fournie pour des siècles et des siècles. Je connaissais plutôt pas mal et que du coup, maintenant, je préférais vraiment me concentrer pour essayer, parce que si je ne le faisais pas par une action volontaire, si je laissais faire les choses, j'allais irrémédiablement me retrouver avec encore des rayons de bibliothèque, avec que des points de vue d'hommes. Et ça me semblait très important justement de me dire, ben non, à un moment, moi, je vais faire ce choix-là des femmes. Et alors ça, ça a été vraiment vécu, parce qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté de la part de certains médias français qui ont contracté ça en une phrase qui disait que je voulais supprimer les hommes, alors que j'explique que c'est une volonté de les éliminer, ils disaient, de les éliminer, non pas, mais de protéger mon esprit et mon imaginaire de n'être que rempli d'un point de vue masculin, ce qui, je pense, n'aide pas dans la vie. En tout cas, certainement pas, ne peut pas m'aider à m'épanouir en tant que lesbienne et que j'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Et alors, ça m'a beaucoup interrogée, en fait, sur pourquoi c'était cette phrase-là, qu'est-ce qui s'était passé. Et je crois que ça raconte quelque chose de plus large de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le mouvement féministe. Enfin, c'est comme ça, moi, je l'analyse. Il me semble que ça rejoint, en fait, ils ont compris, comme ça, un peu inconsciemment, que c'était ça qui jouait en ce moment dans le combat féministe, c'était la question des esprits et des imaginaires. Je m'explique, on a qualifié, même si c'était beaucoup d'autres choses, mais quand même, le mouvement des années 70 féministe reste beaucoup associé à la libération des corps, à la question de dire mon corps, mon choix, mon corps m'appartient, nos corps nous appartiennent, il faut nous libérer. Et je crois que le mouvement de ces dernières années se qualifie beaucoup par la volonté d'une libération des imaginaires, des esprits, de pouvoir dire mon imaginaire, mon choix, je choisis ce que j'apporte à mon esprit, je choisis, mon esprit m'appartient, mon imaginaire m'appartient à moi, je peux choisir comment je le nourris. Et je dis ça parce que ce n'est pas du tout anodin. Il me semble que MeToo, qui caractérise quand même assez grandement le combat féministe de ces dernières années, bah ça s'est passé d'abord dans le milieu du cinéma. Et c'est pas du tout anodin pour moi que ça a été visé dans ce milieu-là, dans la production majeure qui est des imaginaires et d'impact sur les esprits et les imaginaires qu'est l'industrie du cinéma. Et je pense qu'il y a vraiment un combat là-dessus en ce moment de dire c'est lié que la libération des corps, l'émancipation des corps, de la mainmise des hommes, elle n'est évidemment pas terminée, hein, ça continue, mais qu'à ça, ça va de pair avec une libération des esprits et des imaginaires, parce que l'un ne va pas sans l'autre, l'un nous conditionne en fait. Libérer son imaginaire et son esprit, c'est aussi être solide dans son corps par rapport aux tentatives de mainmise que peut avoir le pouvoir patriarcal. Donc je pense que ça soit focalisé comme ça sur cette phrase-là, raconte aussi un antagonisme plus large qui est en train de se passer en ce moment entre le mouvement féministe et le reste de la société.
Et est-ce que vous avez un écho de la réception critique de votre livre ailleurs dans le monde?
Oui, ça n'a rien à voir. C'est sidérant. Alors, notamment dans certains pays francophones, en Belgique et en Suisse, mais vraiment, c'est sidérant. C'est-à-dire que la façon dont je suis interviewée par des médias équivalents, hein, disons, par Le Temps en Suisse, qui est un équivalent du Monde en France, par de la RTS, télévision publique suisse, par des médias belges, ça n'a rien à voir. Déjà, la première truc, c'est qu'ils s'intéressent au livre. C'est-à-dire qu'alors qu'en France, quand c'est pas malhonnête, ce qui se passe surtout, c'est encore cette question d'invisibilisation. C'est-à-dire que moi, j'étais invitée à aucune matinale de la radio publique, à aucune des journaux comme Télérama ou des choses comme ça, alors que le livre parle tant des médias, tant de la télévision. C'est comme si le livre n'existait pas. Ça, c'est leur autre manière de se défendre. Quand ils font pas de la manomalinette, ils font un blocage où j'ai été décommandée d'émissions qui, vraiment, traditionnellement, adorent, normalement, quand il y a un peu des trucs un peu de polémique, ils adorent ça, ils m'ont invité. Là, et je suis, hein, qu'il y a des consignes assez strictes en disant comment ils parlent de moi dans les rédactions, comme je suis une ancienne journaliste, j'ai encore pas mal de contacts, ils disent vraiment non mais cette folle, non mais cette folle, on va pas l'inviter, mais ça va pas, mais jamais, mais pas question. Alors qu'ailleurs, bien sûr, c'était pas du tout ça, et c'est tellement reposant en fait d'avoir affaire à d'autres types de journalisme. Après, évidemment, ça dépend aussi, il y a eu aussi des articles un peu violents dans le Daily Mail au Royaume-Uni ou en Italie aussi, hein, des journaux qui ont été un costaud, mais de manière générale, la réception est très différente en France et dans les autres pays. Mais c'est pareil, ça a été les premiers qui m'ont aussi laissé une tribune et qui ont un peu compris. C'est par exemple un journal comme le New York Times. Voilà, c'est vraiment... Mais c'est normal parce que la presse française est très, très particulière sur toutes les questions, mais pas seulement liées aux lesbiennes, hein, mais sur toutes les questions minoritaires. Il y a vraiment un discours médiatique qui est extrêmement écrasant là-dessus et une difficulté d'accès, en fait, des minorités à la parole médiatique. Donc, moi, c'est ce que je décris dans le livre. Donc, finalement, ça n'est pas très étonnant. Mais ça me fait plaisir qu'il y ait d'autres pays. Et d'ailleurs, merci. Merci à vous.
Génial. Et vous parlez très peu du Québec dans votre livre. Vous parlez beaucoup des États-Unis puisque vous y avez séjourné. Est-ce que vous êtes familière quand même avec le militantisme lesbien au Québec?
Alors, j'y suis familière par des... pas directement, mais par des récits qui m'en sont faits. En revanche, de militantes lesbiennes, je pense à Suzette Robichon, qui, elles, ont passé du temps au Québec. Donc, ils m'ont raconté elles-mêmes. Et puis, j'étais venue il y a un peu plus longtemps. J'avais un peu fait des rencontres et tout ça. Et puis, au cours de mes lectures. Mais, encore une fois, pas tant que ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut aller... Moi, je trouve toujours qu'en tant que lesbienne, il faut être une archéologue, c'est-à-dire que ça ne nous est pas donné directement, tous les textes, toutes les histoires, donc ça demande une démarche de pouvoir aller chercher. Quand j'ai pu le faire aux États-Unis de rencontrer toutes les lesbiennes, c'est très clairement, toutes les lesbiennes, je veux dire, celles dont je parle dans le livre, c'est très clairement parce que j'ai pu bénéficier d'une bourse, d'un institut américain qui a bien voulu faire ça, il faut vraiment, c'est à la faveur d'une circonstance exceptionnelle que ça peut se passer, parce que quand je vois déjà la difficulté aussi, c'est possible, mais je veux dire, la démarche que ça demande d'aller chercher les textes même français des lesbiennes qui sont pourtant d'une infinie richesse. Et d'ailleurs, c'est pas que la production n'existe pas, c'est la façon dont elle est conservée et qu'il faut, encore une fois, ça ne passe pas par là. Si on n'est pas dans une démarche volontaire, comme ça ne passe pas du tout dans les voies générales, ça fonctionne pas. Et quand je vois, si on voit par exemple comment les archives lesbiennes en France, je parle même en termes physiques de local, où c'est stocké dans un sous-sol, très très mal conservé, c'est honteux la façon dont les pouvoirs publics, les hôtes laissent complètement tomber ça. Moi, je suis nouvellement élue à la mairie de Paris, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire changer d'ailleurs. Mais donc, pour répondre plus directement à la question, non, certainement pas assez, je connais. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a frappé aussi quand on a fondé la conférence européenne lesbienne qui est devenue la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie centrale. Mais la mine de textes que j'ai découvert de lesbiennes de Serbie, d'Ukraine, des textes absolument fabuleux en fait, et qui évidemment ne figurent pas dans aucune anthologie ou dans quoi que ce soit, mais qui sont là, quoi. Il faut continuer à. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup le militantisme à l'international, de faire des jonctions et des échanges de textes aussi.
J'aimerais ça revenir sur le fameux argument de la force physique de l'homme. Je vais vous citer, vous dites dans votre livre, la compétence technique, le talent artistique ou la performance physique sont des standards fabriqués par les hommes, pour les hommes. Ils ont fixé des normes à leur mesure et s'enorgueillissent ensuite d'être les seuls à y correspondre. Et là, vous donnez comme exemple les critères de sélection des astronautes de la NASA, qui a fondé ses calculs sur le corps de l'homme blanc. Puis vous concluez, évidemment, il est plus facile de remporter une compétition quand on est, dès le départ, désigné comme l'étalon. Donc, c'est tout à fait ça. Combien de jeunes filles fortes se sont faites dire qu'elles allaient perdre cet avantage-là à la puberté parce que les gars sont plus forts physiquement? On a beau rétorquer, mais que c'est la force du mental, que la femme a l'endurance physique, mais on revient revient toujours avec cet argument-là de force physique qui semble justifier la peur du combat chez plusieurs femmes ou encore le silence des victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que vous répondez à ce vieil adage-là là, de la force physique chez l'homme? Puis comment convaincre la femme d'aller au combat si elle part déjà bonne deuxième?
Eh oui, c'est ça. Ben, alors moi, c'est marrant que vous posiez cette question-là parce que je travaille beaucoup aussi en tant que j'étais journaliste média et donc sur les représentations médiatiques. Et je travaille aussi sur la culture aussi grand public parce que je trouve que c'est un très bon moyen de faire changer les choses. Alors en France, il y a cette émission qui s'appelle Koh-Lanta, qui est une de mes émissions les plus regardées dans le pays, vraiment par des millions de personnes. Et c'est comme le Survivor. Voilà. Et moi, je suis ça de très près avec évidemment un prisme féministe. Et c'est truc où justement on nous raconte toujours que s'il y avait une apocalypse, un truc comme ça, ça serait heureusement les hommes seraient là pour nous sauver. Bon bah là, dans un milieu comme ça, il y a les femmes, elles les écrabouillent. Elle a gagné. C'est une femme qui a, mais elle a gagné. On voit très bien les mécanismes que c'est ce qu'on nous définit comme force physique ou le fait qu'on nous fasse partir d'emblée que ça se passe comme ça et que donc on n'y peut rien parce que les hommes sont plus forts que les femmes. Et bah c'est tout s'organise autour de ça. Pour moi, c'est une fable en fait. C'est une fable. C'est des choses d'une part parce que donc comme je l'explique très souvent en fait, c'est juste que les règles du jeu ont été fixées en fonction de leurs standards à eux. Donc bah évidemment, ils correspondent mieux parce qu'au départ, on a cadré un tas de choses en fonction de leur corps à eux, de leur puissance à eux. Et là où il peut y avoir des différences, c'est pas sur des critères, des qualités justement féminines. Mais même quand c'est ça, il suffit de voir en fait, je veux dire, ce qu'encaissent les femmes depuis des siècles, ce qu'une femme encaisse dans sa vie personnelle depuis le moment de sa naissance, en termes d'attaque, de charge mentale qu'elle doit prendre en compte, ce que les femmes ont fait comme double, triple, quadruple, quintuple tâche auxquelles elles s'attellent, mais déploient une force gigantesquement plus grande évidemment que celle des hommes. Donc je pense que ces récits sont extrêmement trompeurs et ils ont évidemment une fonction. Ils ont une fonction d'inhibition en fait et de faire croire que c'est un ordre établi et que évidemment ça fonctionne comme ça et ce qui est extrêmement inhibant quoi quand si on pense ça qu'on n'a pas la même force, le même rapport. Et je crois que ça ne repose pas du tout sur une réalité. Et c'est vrai que ça c'est plus dans les dernières pages du livre. Récemment, moi j'ai pris pour montrer ça notamment toutes les parce que ça devient un sport un peu à la mode tout ce qui est les sports d'endurance, de trailing, de long parcours et tout ça. Mais les femmes sont en train de remporter plein de compétitions en fait là-dessus qui sont les sports vraiment durs, vraiment où elles doivent continuer tenir. Et donc on voit très bien à quel point c'est complètement arbitraire en fait d'avoir fait poser ça comme ça. Et c'est pourtant très souvent l'argument qui est utilisé en disant oui mais tu peux pas nier qu'il y a des différences, on n'y peut rien si les hommes sont plus forts que les femmes. C'est comme et pareil de nous dire ça s'est organisé dès le départ, si la société s'est organisée de manière patriarcale, c'est parce que les hommes ils étaient plus costauds donc ils devaient aller à la chasse. Tout ça a été démonté par des gens comme Françoise L'Héritier, par des anthropologues qui ont dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé en fait. C'est l'inverse, c'est que si vous commencez à donner plus à manger à des gens, si vous commencez à développer et à partir de quelque chose, et éventuellement ça on peut faire repartir de la grossesse ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout évidemment. Ça développe après des capacités physiques et c'est exactement en lien avec ce que je disais tout à l'heure, les imaginaires, l'esprit joue sur le corps. Donc, si on est dans un imaginaire et un esprit où oui c'est des plus petites choses et tout ça, les corps se façonnent en fonction de la représentation qu'on en a. Et donc je pense que c'est très important aussi de changer ce récit là et de dire mais non mais pas du tout quoi. Et la façon dont moi c'est la plus à titre personnel, mais moi j'étais très sportive quand j'étais petite et j'étais plutôt fortiche, très forte en sport. Mais à quel point on m'a humiliée de ça, c'est-à-dire qu'on m'a dit ah t'as des épaules de nageuse, ah comme si mon corps de sportive n'était pas valorisé là où les corps musclés des hommes sont admirés, beaux, les biceps, les abdos et tout ça. C'est l'inverse. La sportive, la femme dans toute la possession de sa force physique est justement renvoyée au fait qu'elle n'est plus une femme. Voire certaines grandes sportives essayent de le dissimuler, d'apparaître davantage dans des critères de féminité comme si c'était pas beau. Alors pourquoi c'est magnifique chez les hommes et c'est pas beau chez les femmes? Et on voit bien que tout ça, ça induit des représentations qui ont après un impact sur la façon dont nos corps se développent.
Vous êtes habituée de mener des actions militantes. Il y en a plusieurs que vous parlez dans votre livre au sein du collectif féministe La Barbe. D'ailleurs, c'est très intéressant à lire et à suivre. Et j'aimerais ça vous citer par rapport à ça. Vous dites « Je ne dis jamais que les hommes aussi ont tout à gagner du féminisme. C'est faux. Ils ont tout à perdre. Leurs privilèges, leur monopole, leur pouvoir. C'est un combat. Nous ne le menons pas ensemble. Ce sera le cas lorsque les hommes quitteront un à un leur poste pour les laisser aux femmes. Accepteront d'entendre les souffrances qu'ils causent et paieront. Il faut qu'ils paient. » Puis cela dit, hein, ça leur rapporte tellement qu'ils vont plutôt continuer à s'enrichir puisque le système leur profite. Donc, le secret pour les femmes, est-ce que c'est au final de se créer leur propre système, comme l'ont fait, par exemple, les Amazones dites radicales dans les années 70? Bref, est-ce que l'activisme suffit à mettre fin à cette boucle?
Oui, alors, pour revenir sur le préalable, c'est vrai que pour moi, c'était un point important parce que le livre, c'est beaucoup une question de ce qu'on s'autorise à dire et de comment on énonce, en fait, le féminisme. Et pendant très longtemps, moi, j'ai entendu des stratégies de dire « oui, il faut dire que ça sert aussi aux hommes, il faut dire que tout le monde a profité de la révolution féministe, que les hommes aussi, ils ont à gagner ». Et même dans des livres, qui datent d'il y a 15 ans maintenant, mais le livre de Virginie Despentes, par exemple, qui, comme théorie, se termine dans un truc où elle dit presque que les hommes, bah, ils souffrent encore plus. Enfin, c'est... Parce que j'entends hein, les histoires de tout à fait de masculinité, que c'est dur aussi pour certains hommes d'avoir ces standards de masculinité, donc que tout le monde aurait à gagner. Sauf que la vérité, c'est que je pense qu'il veut la dire, c'est que si c'était vraiment, si vraiment ils avaient à en souffrir, à en profiter, on n'en serait pas là. Ça fait longtemps que ça serait terminé et que si ça reste comme ça, c'est parce que, évidemment, les hommes ont des privilèges immenses et tout à gagner au maintien de ce système qui les place dans une situation extrêmement favorisée. Donc, moi, je trouve que c'est très important de rompre, en fait, avec ce discours-là. Et c'est vrai que c'est à la barbe beaucoup qu'on énonce ça. Donc, le collectif La Barbe hein, s'introduit, en fait, dans les lieux de pouvoir, sur toutes les scènes culturelles, sportives, financières, les conseils généraux où il n'y a que des hommes entre eux. On se débrouille pour avoir des billets, se faire inviter. On arrive avec des fausses barbes et on leur dit bravo pour le maintien du patriarcat, messieurs, tenez bon, résistez à la féminisation de la société. Et on rend visible, en fait, leur domination. Et c'est vrai qu'on appelait toujours, nous, à dire bah, quand est-ce que. Enfin, la France est si fière de sa nuit des privilèges du 4 août 1789 où les nobles auraient lâché leurs privilèges, auraient dit je renonce à mes privilèges. Et quand est-ce que vous faites ça, les hommes? Quand est-ce que vous nous faites un défilé? On dit je renonce à la présidence de la République. Je renonce à la présidence de l'Assemblée nationale, je renonce à la présidence de telle entreprise du CAC 40, autant de postes qui sont toujours tenus que par des hommes dans ce pays. Et ça, on l'attend toujours, hein, ça n'arrive pas. Et donc, pour répondre directement à la question, c'est pour ça que je voulais répondre par la barbe, parce que certaines militantes ont pu me dire « Ouais, mais pourquoi tu t'intéresses à aller dans le système, finalement? Vous perdez votre temps un peu, pourquoi vous ne construisez pas plutôt dans une perspective peut-être de lesbienne séparatiste, de... Ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser, et puis c'est encore les cautionner. » finalement, que d'aller s'y frotter, c'est encore leur reconnaître que c'est eux qui fixent la norme, finalement. Et j'entends, hein. Moi j'entends tout à fait cette critique-là, et ça m'intéresse évidemment beaucoup les constructions alternatives, et plus à la marge, et sans lien, finalement. Mais c'est vrai que c'est pas mon choix militant, c'est pas mon choix activiste, et que moi je fonctionne beaucoup plus en allant, que ça soit dans le journalisme, où je travaillais à 20 minutes, qui est la rédaction généraliste et grand public par excellence en France, ou en allant en politique, en étant élue, et vraiment en rentrant au cœur du système, parce que je crois beaucoup à cette stratégie qui a un peu été énoncée, notamment par Alexandria Ocasio-Cortez, jeune nouvelle élue, c'est la plus jeune hein, du Congrès, que ça compte aussi américain, et qui disait qu'il faut faire le dedans et dehors, en fait. Ce qui va fonctionner, c'est d'être à la fois dedans et à la fois dehors. Et quand on arrive à avoir à la fois des gens qui viennent cogner vers l'extérieur, mais d'être aussi au cœur du truc et de pouvoir saper les fondements, là, on obtient des changements beaucoup plus rapides. Mais je ne l'énonce pas comme une vérité. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'on puisse préférer aller vers des scénarios alternatifs. Je crois que c'est aussi une question de quelle est notre position dans le monde. Moi, je raisonne toujours en ce que j'ai la possibilité de le faire aussi. C'est-à-dire que je suis par, je sais pas, mon éducation, mes goûts, plein de choses. Ça me va de faire ça. J'y ai accès. Enfin, c'est dur, mais j'arrive à creuser ça et ça me semble très intéressant. Mais la question, elle se pose tout le temps. Par exemple, elle s'est posée pour le livre. J'aurais pu choisir d'aller plutôt vers une maison d'édition vraiment féministe et engagée, alors que Grasset publie aussi des ouvrages de profonds misogynes, sexistes, comme Pascal Brotner, Virginie Despentes, Paul Preciado. Donc, bien sûr, ils sont aussi ouverts à ça, mais ouverts. C'est pas alors. J'aurais pu aussi, pareil, dire je préfère aller. Et moi, je suis dans ce jeu-là de dire ouais, mais ça m'intéresse d'aller au cœur. Parce que c'est très important, en fait, les représentations qu'on va pouvoir avoir et l'impact. Mais c'est tout à fait personnel. Et je comprends très bien d'autres types de stratégies. Je crois surtout que face à la montagne, que c'est le patriarcat, on a besoin de tellement de stratégies différentes et d'attaquer de tous les côtés, y compris de plutôt passer le long du chemin que de rentrer de front. Donc, tout me semble très pertinent.
Et le 4 septembre dernier, l'Institut catholique de Paris, où vous enseignez le journalisme, a décidé de ne pas renouveler votre contrat en évoquant une incompatibilité entre votre militantisme jugé trop visible et les valeurs de l'établissement. Comment avez-vous reçu la nouvelle et est-ce que vous avez essayé de défendre votre contrat?
Ouais, c'est bizarrement, alors que vous l'avez pointé régulièrement, les attaques des médias, des politiques ont été extrêmement violentes, ça ne m'a pas autant atteint que ça m'a atteint la décision de l'Institut catholique de Paris. Et ça m'a intéressé parce que je me suis dit, mais pourquoi ça vraiment, je l'ai appris comme ça, le jour de la rentrée, ils m'ont dit, ah non, c'est terminé, vous êtes jugée trop militante, voilà. Et là, c'est la seule fois où vraiment je me suis un peu effondrée ces dernières semaines, parce que je pense que la sphère du travail aussi est compliquée. Enfin, moi, j'étais aussi déléguée du personnel, déléguée syndicale, je vois ce que ça fait. C'est vraiment de se dire, et je pense qu'il y avait aussi peut-être une angoisse de se dire, moi, j'ai vu tellement de militantes qui ont fait des choses absolument primordiales pour la lutte et tout, et terminer dans une situation de précarité totale, justement, de plus jamais pouvoir avoir accès à des emplois. C'est aussi comme ça hein, qu'ils mènent le combat, hein, c'est-à-dire en nous interdisant presque des moyens de subsistance, quoi. Hein, ça fait partie. Donc, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça vient vraiment cogner très fort. Et puis, il y avait cette déception aussi que moi, j'enseignais le journalisme là-bas, que c'était passionnant et que ça se passait très bien depuis 8 ans. Donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment costaud, quoi. Et oui, bien sûr, il y a une audience au Prud'homme au mois de janvier. Donc, voilà, ça tient pas tellement hein, leur histoire juridiquement. Donc, oui, je les poursuis. Et puis, je crois que c'était important pour moi de le faire aussi parce qu'on a beaucoup d'échos d'autres militantes, notamment lesbiennes, d'autres pays de l'Est ou autres, où on a quand même une tendance extrêmement forte, et notamment dans les universités, mais aussi dans des entreprises plus générales, à invalider le parcours professionnel des gens en fonction de leur militantisme. Et je pense que c'est une tendance très inquiétante, très préoccupante, et qu'il faut vraiment faire que la justice se prononce sur ce sujet-là tant qu'il est important.
Et votre livre n'était pas encore sorti?
Le livre, il devait sortir au mois de mars, à l'origine, parce qu'il y a eu le confinement, et donc il a été reporté de 6 mois. Mais par ailleurs, il fonctionne de manière très visible, donc il savait très bien. Quand on m'a embauchée il y a 8 ans, que j'étais militante, c'est pas que je suis jamais cachée, mais bon, après mes cours, ils n'étaient pas là-dessus du tout. Mais je pense qu'il y a eu un effet de, soit de changement, bon, c'est l'archevêché, c'est pas l'institut catholique hein, quand même aussi. Donc, il y a eu certainement ça. Mais pourtant, c'est bizarre parce que c'était aussi des gens, il y a d'autres universités qui peuvent être très fermées, hein, moi, mon discours ou autre, ça allait aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des changements de ligne éditoriale, presque, et ça traduit des changements de l'époque aussi. Où je pense que de manière générale, ça se durcit énormément de ce point de vue-là. En tout cas, en France, il y a vraiment une espèce de guerre culturelle hein, là-dessus, qui traverse les universités, qui traverse les rédactions des médias aussi, de qui on prend, qui on ne prend pas. C'est une illustration de ça, et c'est pour ça que je crois que c'est très important de se défendre et de résister par rapport à ça, parce que ça n'est pas acceptable.
Effectivement. Vous parlez beaucoup des personnalités publiques qui hésitent à faire leur sortie du placard, ou si elles le font, ne veulent pas devenir des porte-étendards de la communauté LGBT, et de l'importance aussi d'avoir des modèles LGBT. D'ailleurs, vous dites que lorsque vous donnez des formations, c'est sur ce point-là que vous recevez le plus de critiques. Et en passant, je trouve votre réponse à ces critiques vraiment délicieuse. Comment expliquez-vous ce manque de modèles LGBT en France? Et est-ce que vous avez regretté votre visibilité suite à la perte de votre emploi à l'Institut catholique de Paris?
Oui, alors en fait, ça part d'un constat, ça, qui m'a sauté aux yeux au moment des discussions sur le mariage pour tous en France, qui ont lieu en 2012-2013, qui était une période très, très agitée en France, où pendant plusieurs mois, en fait, on a eu des défilés très homophobes dans les rues de Paris à l'initiative d'un collectif qui s'appelait La Manif pour tous et qui ont été vraiment, c'était dur, c'est-à-dire que tous les jours il y avait des discours très hostiles dans les médias, on donnait la parole à ces gens-là, etc. Moi j'étais déjà militante à l'époque et on avait un peu pressenti comment ça allait se passer. On avait publié une tribune dans le Monde, donc dans vraiment en prenant et qui avait accepté d'ailleurs le grand journal français qui s'appelait Sortons du placard, il est temps que les célébrités françaises fassent leur coming out. Et en fait, pendant cette période, personne en France. Personne n'a révélé, personne n'a dit je suis gay, je suis lesbienne dans les personnalités publiques, ce qui est un cas assez rare. Si on prend des exemples d'ailleurs, comment s'est passée ces discussions-là, par exemple en Irlande. Bon, bah, en Irlande, la discussion sur le mariage pour tous, elle n'a pas non plus été simple hein, parce qu'il y a une forte autorité catholique et pourtant, il y a une présentatrice, par exemple, d'un grand journal de la télévision publique, Ursula Halligan, qui a dit, bah, moi je me sens la responsabilité de dire je suis lesbienne, vu les attaques qu'on a, je ne peux pas rester sans rien dire. Et puis quand vous vous attaquez à elle, vous attaquez à moi et c'est important. En France, pas du tout. Et en France, après, moi, ce n'est pas juste une impression. C'est-à-dire qu'il y a des études, des statistiques aussi, qui montrent qu'on a un parlement, où parmi les parlements dans le monde, où il y a des députés qui sont ouvertement gays ou lesbiennes, il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout. Mais parmi la vingtaine de pays, il y a ça. En 2017, la France était à la dernière place. Et puis moi, je sais, en étant journaliste, que je connais un paquet en fait d'animateurs télé, d'animatrices télé qui n'osent pas. Et je crois que c'est intéressant parce que ça révèle vraiment un système français plus large, qui est que c'est très compliqué en France de se revendiquer comme membre d'une minorité et en même temps d'être toujours crédible, légitime dans son discours. C'est valable pour les gays et les lesbiennes, les personnes trans, c'est valable, mais c'est aussi valable pour les noirs, les musulmans, les musulmanes. C'est-à-dire, c'est comme si tout d'un coup, si on dit qu'on est ça ouvertement, on peut plus, on a perdu le titre de citoyen français, qui est quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus une vision très universelle, de dire Mais au-delà de nos particularités, nous sommes d'abord un citoyen de France, je le dis au masculin. Je crois que ça freine pas mal de gens, en fait, pour en avoir discuté avec eux, de dire ça, parce qu'ils ont peur, et parfois avec légitimité, de perdre leur crédibilité là-dessus, ce qui est quand même un peu grave. Et puis parfois, ils sont juste un peu égoïstes et ingrats, parce que bah, quand même, ils vivent sans problème dans leur... Quand c'est des gens qui sont... Je parle de gens qui sont très en sécurité, hein, je ne fais pas du tout d'injonction au coming out. Chacun fait exactement, bien sûr, comme c'est possible, comme selon les envies. Je parle de gens vraiment qui auraient un impact, qui auraient un pouvoir et qui sont très bien, que tout le monde le sait dans leur petit entourage professionnel et tout ça, mais qui ne veulent pas s'embêter en fait à aller plus loin. Et à ces gens-là, je trouve vraiment qu'ils font preuve d'égoïsme, parce que eux, s'ils en sont là dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, c'est grâce à tous les militants, les militantes qui, avant eux, ont perdu leur boulot, justement, se sont fait castagner dans la rue, et qu'à un moment, bah, ils pourraient un petit peu renvoyer l'ascenseur, quoi. Ça me paraît important. Donc, oui, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, et c'est pas du tout fini en France, et c'est encore très problématique. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des gens aussi qui parlent au nom d'une communauté. C'est très mal vu. Donc, du coup, ça freine. Et bah, je crois que moi, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire en bout de fil? En bout de fil, ça veut dire que moi, j'ai grandi en n'ayant aucune figure de référence lesbienne, et donc en ne connaissant même pas ce mot, en ne pouvant même pas m'imaginer qu'une vie lesbienne était possible, alors que je n'avais pas de blocage, je n'avais pas d'entourage familial, jamais eu de soucis. C'était juste moi, en fait, que du coup, je pouvais penser que j'étais un peu « Ah tiens, j'aimais bien les filles et tout ça », mais dans ma tête, c'était toujours « Oui, mais un jour, le prince charmant », parce que je n'avais que des modèles, en fait, de couples hétérosexuels, de personnalités, dans les séries et tout ça, donc c'est quand même extrêmement important qu'on ait ces références-là, et je trouve dommage que ces personnes-là n'en prennent pas conscience. Ah, c'est une discussion que j'ai eue avec, parce qu'il avait bien fait son boulot, pour le coup, un des présentateurs français, animateurs français les plus connus, qui s'appelle Laurent Ruquier, et pour ses émissions le samedi soir sur France 2, et qui avait commencé par critiquer mon livre dans une première émission, et en plus, ça m'avait ennuyé parce qu'il l'avait fait alors qu'il recevait la championne de tennis lesbienne Amélie Mauresmo. Et puis je me disais, j'étais devant l'écran, je me disais, mais arrête de lui dire ça, elle va me détester. Parce qu'il disait, oui, Alice Coffin qui veut supprimer tous les hommes. Bon. Et puis il m'a invité, il a fait son mea culpa, ce qui est très rare. Il a dit, mais franchement, j'avais pas lu votre livre, j'avais lu que les articles, est-ce que vous dites, c'est pas du tout ça en fait. Et puis par ailleurs, vous avez raison, parce que lui, il a révélé et tout, il est sorti du placard, mais c'est vrai qu'il veut jamais être porte-parole. Il dit toujours, non, mais. Et il a dit que ça l'a fait beaucoup réfléchir. Que finalement, c'est vrai qu'il y avait un souci avec ça en France, c'est vrai que peut-être qu'il y avait aussi un devoir de se positionner quand on était en position sécurisée pour le faire. Et donc, je le cite parce qu'il y a aussi eu des très bonnes nouvelles et surprises à la réception de ce livre, et ça, c'en était une.
C'est ça, il a fait son mea culpa, j'ai regardé. Mais vous n'avez jamais regretté d'être visible?
Ah non, moi, j'ai jamais eu un questionnement là-dessus. J'ai pas regretté, mais en revanche, je comprends que ça soit compliqué. Ce que je veux dire, c'est aussi, sortir du placard, c'est un événement toujours renouvelé. C'est-à-dire que bon, alors là, maintenant, je suis un peu plus connue, donc les gens, en général, et peut-être, ils savent déjà que je suis lesbienne, mais ça demande quand même, tout au long du parcours professionnel, amical, ça demande de le refaire à chaque fois, de ressortir du placard, et je sais que c'est pas simple, et parfois, ça peut être fatigant, et on se dit, et comment, et alors, oh là là, si je dis ma copine, il va tout de suite avoir une réaction, et je dis pas que c'est facile, je dis que les personnes en position de le faire doivent le... Et moi, je n'ai absolument jamais regretté. C'est vraiment... C'est pour ça aussi que je dis ça. Je dis, ça va, il faut aussi dire que ça peut très bien se passer. Donc, et ça peut aussi apporter, au contraire, énormément de rencontres supplémentaires, parce que moi, le fait que dans mon parcours pro, je l'ai toujours fait, ça m'a apporté des désagréments, mais ça m'a apporté aussi beaucoup de gens qui sont venus me voir grâce à ça, que j'ai rencontré grâce à ça. Donc, ça aide aussi.
Le dernier chapitre est consacré à la guerre des hommes. Donc, en suggérant de faire la guerre aux hommes, aux moment où l'endurance des femmes va enfin faire place à la révolte. Mais vous posez le problème en soi, hein, si personne n'entend les canons, comment faire? Et là, vous parlez de Donald Trump, qui demeure finalement la métaphore idéale. Hein, il n'est même pas capable d'entendre lui-même sa défaite. Bon, là, il commence. Est-ce que vous croyez que Joe Biden va changer la donne en tant que journaliste média? Évidemment, vous avez nécessairement suivi ça, j'imagine. Non?
Bon, on a vu un peu les débuts. Enfin, les débuts, il n'est pas encore intronisé, mais on a commencé à voir, et j'étais notamment attentive, il y a eu des articles sur le fait que toute son équipe de communication soit composée uniquement de femmes. On a vu le discours de la vice-présidente Harris, qui m'a assez frappé, hein, son discours, c'est-à-dire que ce qu'elle dit sur les femmes noires, notamment, à quel point ce sont les femmes noires qui tiennent une société, qui tiennent ensemble quelque chose, me semblait extrêmement fort. Alors là, ça serait un discours absolument inaudible en France. Enfin, personne n'oserait dire... Et donc, je trouvais ça quand même assez fort, assez bon signe. Donc, vous aurez remarqué que je cite plutôt les femmes qui entourent Joe Biden que Joe Biden lui-même. Mais voilà, hein, c'est un peu ma réponse. De mon séjour après, moi, aux États-Unis, je trouvais les gens, à juste raison, tellement traumatisés par cette ère Donald Trump, que déjà, je pense qu'il y a cet effet de sortie, hein, de Donald Trump qui est déjà en soi et est importante. Après, ben voilà, hein, ça reste encore un homme âgé qui a pris le pouvoir. Donc, ça irait plus vite si c'était Alexandria Ocasio-Cortez quand elle sera en âge d'être présidente. Je pense que ça sera le plus rapide. Mais bon, ceci dit, la question des chefs d'État est quand même intéressante. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas... Moi, j'ai souvent des discussions avec d'autres militants qui me disent « Mais oui, mais ça veut rien dire. Ben, alors, tu veux Marine Le Pen, le Front National au pouvoir. » Alors, moi, je crois quand même que c'est quand même important. La question de qui incarne le pouvoir, elle est primordiale. Et avec des choses différentes, évidemment, on a par exemple des cas où la première ministre de Serbie, c'est une femme lesbienne. C'est vrai que c'est une femme qui, par ailleurs, est d'un parti extrêmement réactionnaire. N'empêche que les militantes qui sont là-bas, elles disent aussi « Bah ouais, mais ça nous change quand même la donne. » Même si, dans ce parti réactionnaire-là, qu'elle est horrible au pouvoir, ça fait quelque chose. On est une lesbienne quand même à cette tête-là. Nous, il y a un truc quand même qui va nous aider à enclencher aussi des choses dans le reste de la société. Donc, c'est compliqué, hein, la question de la visibilité, pourquoi. C'est quand même ardu. Mais ce que j'espère surtout, c'est que moi, j'ai été très frappée par l'état d'épuisement, en fait, hein, des militantes et militants des États-Unis, qui, je pense, en 4 ans, ont vécu des choses, mais où ils ont dû être extrêmement mobilisés, et à la fois avec la naissance de... C'est toujours pareil, dans les moments de crise aussi, où on renforce un militantisme, on renforce un activisme, et on développe d'autres stratégies dans l'adversité. Mais j'espère surtout qu'ils vont pouvoir tout petit peu souffler, quoi, et parce que je crois que ça a été une épreuve épouvantable, enfin, je veux dire, que d'avoir Donald Trump à la tête d'un pays, je sais pas si on mesure bien, mais c'est vraiment très 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 dur, quoi, dans les attaques quotidiennes auxquelles ces associations devaient faire face, etc. Donc au moins, ça fera une petite pause, peut-être.
Les femmes sont prêtes à défendre la veuve et l'orphelin avant de se défendre elles-mêmes, puis vous en parlez dans le chapitre sur le militantisme puis l'activisme. Vous citez aussi Simone de Beauvoir qui disait déjà en 1949, et je la cite, « J'ai longtemps hésiter à écrire un livre sur la femme. » Puis là, vous écrivez, on retrouve l'hésitation, l'impression que le sujet n'en vaut pas la peine, la crainte du caractère daté des considérations. Tout ce que, exactement, 70 ans plus tard, j'ai ressenti. Est-ce qu'on a, au final, oublié d'enseigner aux femmes qu'elles en valaient la peine, qu'elles sont, à elles seules, une cause noble?
Oui, ben c'est vrai que je pense que non seulement on oublie de l'enseigner, mais même on enseigne l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous apprend à penser qu'on exagère. C'est la phrase de Christine Delphi, militante du MLF, quand on accuse une féministe d'exagérer, c'est qu'elle est sur la bonne voie. Vraiment, on nous enseigne presque, et moi, j'étais très, très marquée par le fait que, alors que je travaille au quotidien là-dessus, et à chaque fois, je me disais, non, mais peut-être ça va mieux, peut-être j'exagère, peut-être j'y vais un peu trop fort. Et après, c'est vrai que ça m'a frappée de voir, ah non, mais il y a 70 ans, alors que rien, alors que les femmes n'avaient toujours pas le droit d'avoir un chéquier, que l'avortement n'était pas autorisé, etc., etc., Beauvoir était en train elle-même de se dire, non, mais bon, là, est-ce que vraiment j'ai raison de faire ça, est-ce que... Donc, bien sûr que non seulement on ne nous enseigne pas ça dans la valorisation, mais on nous enseigne au contraire à... sous-dimensionner notre discours. Ça, c'est un truc, après, qui n'est pas nécessairement, toujours pareil, qui n'engendre pas nécessairement que du négatif pour moi, c'est-à-dire que la capacité à être dans une remise en question, dans une question de doute et tout ça, et aussi, je trouve, très intéressante et font que, très souvent, les réflexions des femmes m'intéressent bien plus que celles des hommes parce qu'elles sont moins assertives, parce que c'est moins un donné, déjà, là. C'est ce qu'a raconté Gisèle Halimi, qui était une des grandes figures du MLF français, avocate, qui a défendu, qui a obtenu la criminalisation du viol pour la première fois, qui était très active dans les questions d'avortement. Et Gisèle Halimi avait, pendant des élections politiques, fondé une liste de femmes, il n'y avait que des femmes, qui candidataient. Et elle disait, c'est fou parce que c'est tellement plus intéressant. C'est tellement plus intéressant d'écouter ce que les femmes ont à nous dire sur la politique que les hommes, tout simplement parce qu'eux, ils ont l'habitude de dire les mêmes choses depuis, ils sont là, depuis toujours, donc ils nous racontent des histoires qu'on connaît déjà et puis ils nous les racontent de manière très affirmée. Alors que les discours des femmes, bah, c'est tous ces vécus qu'on n'a pas entendus depuis des années, qui ont besoin de sortir et qui sont dits de manière beaucoup plus distancée. Et c'est un peu ce que je dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément il faut l'avoir en tête, qu'on est toujours en train dans la dévalorisation et tout ça. Mais il ne faut pas non plus forcément seulement s'en désoler. Je le dis notamment sur tout le passage où je développe sur les chaînes d'information continue de la télévision, tout ce qui est les lives, les BFM News qu'on a, qui s'appelle BFM TV, CNews, qui sont toujours... Et je trouve que c'est des symboles de la masculinité toxique, en fait, ces chaînes-là, parce que leur système font qu'elles veulent toujours avoir des nouvelles personnes invitées sur le plateau, que très souvent, ce sont des hommes qui défilent comme ça. Et souvent, moi, ce qu'on m'a appris en journaliste, ils disent « Oui, mais s'il n'y a que des hommes sur ces plateaux-là pour commenter l'actualité, c'est parce que les femmes, elles disent toujours « Non, je crois que je ne suis pas légitime pour venir vous répondre, non, je connais pas bien le sujet », alors que les hommes, ils n'hésitent jamais, ils disent « oui, bien sûr, je viens, quelle heure, je suis là », même s'ils connaissent rien au sujet. Et là, Moi, souvent, on m'a dit, mais tu vois, il faut apprendre aux femmes à dire, mais oui, bien sûr, je viens. Ben, moi, je suis pas sûre de ça. Parce que moi, je trouve ça formidable aussi que les femmes ne rentrent pas dans ce système de l'information continue qui fait qu'on raconte n'importe quoi parce qu'ils savent, ils connaissent pas les sujets et disent, bah, non, en fait, je vais pas venir parler d'un truc, de quelque chose que je connais pas parce que je doute aussi de ma parole. Je veux qu'elle soit construite, je veux qu'elle soit pertinente. Donc, il y a aussi du bon à prendre là-dedans et pas seulement, c'est toujours une question de standard, en fait. Au nom de, si on est dans un standard où ce qui prévaut, c'est l'affirmation, la force, le fait d'être sûr de soi, ouais, c'est pas génial du côté des femmes. Si on est dans d'autres standards et qu'on change un peu le prisme auquel on évalue l'efficacité, c'est pas si mal.
Comment on va faire pour convaincre les femmes de prendre les armes, outre le fait de lire le livre?
Et je sais pas, en plus, il faut convaincre les femmes de prendre les armes. Moi, je pense qu'il faut, la première étape, en fait, que je trouve primordiale, c'est la lucidité, en fait, et la capacité à dire sa colère et à énoncer la situation. Et rien que ça, on voit comment le livre est reçu. C'est-à-dire que rien que ça, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas laisser la place à un tel discours. Et je crois que ce qui est en train de se passer dans le mouvement aussi féministe actuel, je parlais tout à l'heure des esprits et des imaginaires de cette libération-là, l'autre grande tendance, un peu l'autre grand mouvement que je vois, c'est la capacité enfin trouvée à désigner des responsables, à désigner des adversaires. C'est-à-dire, je ne suis même pas en train de dire justement prendre les armes, pas prendre les armes, de savoir comment on va les combattre, mais de dire que c'est eux qui sont responsables. Et ça, ça a été pointé aussi par des féministes qui étaient là dans les années 70 et qui ont dit, nous à l'époque, c'était notamment encore Christine Delphi qui disait ça, nous à l'époque on n'osait pas en fait pointer comme ça les hommes, dire c'est eux, on avait déjà tellement de choses à régler que bon. Et la nouveauté quand même, quand on voit le mouvement, je pense au mouvement MeToo, qui en français s'est traduit par balance ton porc. Bon, bah, balance ton porc, ça veut bien dire je vais désigner quelqu'un. C'est pas juste le système, il est mal organisé et puis tout le monde, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde en pâtit et c'est dur pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui sont responsables de ces violences-là. Ces gens-là, ce sont les hommes. Il faut les pointer. Ce qui se passe sur les murs des villes de France où on a maintenant le mouvement des colleuses qui collent en fait vraiment en énormes lettres justement en noir et blanc, qui dénoncent tous les crimes violents qui sont commis, toutes les situations, et avec des mots en disant « il a fait ça, un homme a tué ». Et bien là, c'est pareil. Et c'est pas pour rien qu'elles mettent des grosses lettres. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a besoin de le dire, de l'écrire en toutes lettres. Et ça, déjà, c'est un combat. Ça, d'être capable de dire « Non, mais moi, j'ai un problème avec les hommes à cause de ça. » Et ce que je raconte aussi, c'est qu'on m'a tellement de fois dit en interview où j'expose, dans les années passées, une situation très dure, à tout point de vue pour les femmes en France, et on me dit « Oui, bon, mais quand même, vous aimez bien les hommes, vous les détestez pas. » Comme si c'était ça le sujet. Je dis « Mais je suis pas en train de vous parler de ça, là. Je suis en train de vous parler d'un combat. » Et vous me dites, quand vous avez des syndicalistes en grève, vous allez dire « Ouais, mais votre patron, au fond, vous l'aimez bien. Il est quand même pas si méchant. » C'est quoi le sujet, quoi? C'est pas, non. Pourquoi on ramène toujours les femmes à l'affectif, à l'émotionnel, et pourquoi ils ont toujours besoin d'être rassurés? Et ça, je crois qu'il faut être capable de rompre avec ça et de dire, bah non, en fait, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que j'ai quelle attitude par rapport aux hommes? Je dis, si je les aime bien, j'ai vraiment beaucoup du mérite. Vous devriez le saluer, c'est tout, mais parce que la situation, réfléchissez plutôt sur vous-même, quoi. Arrêtez de nous demander à nous de vous aimer. Faites en sorte que, quoi. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, le premier combat, il est dans l'énonciation, il est dans la capacité de dire ça et de s'opposer, de dire, vous menez la guerre, en fait. Ce que vous faites, c'est un nom, c'est un massacre et vous êtes en train de faire ça et prenez vos responsabilités. Et ça, déjà, on n'y est pas du tout à cette étape. C'est encore très, très dur à dire. Je le vois dans les réceptions du livre, vraiment, le nombre de femmes qui peuvent me dire, mais oui, mais... comme si je dis, ben non, mais moi, c'est bon, moi aussi, je travaille avec des hommes, je suis avec des hommes, ça n'empêche pas de pointer des responsabilités. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que justement, il n'y a pas d'incompatibilité entre un discours universel et un discours minoritaire, qui est les théories aussi de Monique Wittig là-dessus, pour dire, ben, en fait, quand on parle très intimement, du plus profond de l'intime, de ce qu'on est soi, ben, on atteint, bien sûr, l'ensemble de l'humanité. C'est marrant que, notamment, tous ces hommes qui nous ont pendu des livres pendant des siècles et des siècles, et que Gustave Flaubert était capable de dire « Madame Bovary, c'est moi qui suis capable de dire « Si je vais puiser au plus profond de moi dans la littérature, alors je parle à toute l'humanité. » Donc ça, ils le comprennent hein, quand c'est pour leurs œuvres. Mais quand moi, je dis tout simplement « Quand je vous raconte mon expérience de lesbienne, bien sûr, ça me permet de toucher aussi de près d'autres expériences de situations discriminatoires, d'autres expériences humaines et de vous les raconter en tant qu'être humain. »
Merci beaucoup, Alice, d'avoir répondu à nos questions. Nous, au Réseau des lesbiennes du Québec, on était extrêmement excités de ça. Donc, et on a reçu des messages d'amour dans le chat. Les gens sont en amour avec vos propos. Donc,
c'est super. Je suis extrêmement touchée. Enfin, c'est très émouvant. Enfin, vous avez organisé ça. Et vraiment, merci. Et puis, ça m'a marqué la question aussi sur quelle était ma connaissance, moi aussi. des productions lesbiennes québécoises et tout ça. Et j'espère qu'on peut organiser des choses justement avec la conférence européenne lesbienne, de faire d'ailleurs, et à l'inverse, alors c'est plutôt en anglais, mais le site europeanlesbianconference.org, le site de la conférence européenne lesbienne, on fait beaucoup de webinaires et autres qui renseignent aussi sur la question. Il y a plein de vidéos disponibles sur la situation en Russie, dans les pays de l'Est, et c'est absolument passionnant les modes de mobilisation des lesbiennes là-bas et le poids qu'ont les lesbiennes sur beaucoup de mouvements de résistance dans ces sociétés-là, évidemment. Donc j'espère qu'on aura des interactions qui vont se poursuivre. Ça me fera très plaisir. Voilà. Et merci.
Absolument. Merci à vous.
On invite les gens aussi qui, s'ils ne se sont pas procurés le livre, à le lire. Le génie lesbien publié aux éditions Grasset. On invite les gens aussi à devenir membres du réseau des lesbiennes du Québec. Ensemble, quand on est solidaire, ben on est plus fort. Hein? Je pense que le livre le prouve aussi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice.
Merci
donc
à vous. Au revoir. Merci beaucoup. CKUT Radio. Radio. Sound waves in the air. CKUT. Montreal, Canada. CKUT.
These folks at CKUT love their 100% certified organic and fair trade gourmet coffee from Saint-Tropez. Prepared in the heart of Montreal with beans from all over the world, you can find and get your own cup of freshly brewed Saint-Tropez coffee from AUS Snacks on McGill Campus or from Café Saint-Tropez on the corner of Saint-Urbain and Duluth. I need a fresh cappuccino with a mocha twist. Fresh, fresh cappuccino with a mocha twist.
Fresh, fresh cappuccino with a mocha twist. Hey, hey, miss. The pandemic in Canada is serious. We must continue to practice all public health measures. Follow local guidelines for gatherings, maintain physical distancing, wash your hands, wear a mask, and download the COVID Alert app. If you have symptoms, even mild ones, stay home. Protect yourself and others. Learn more at canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397. A message from the Government of Canada. Good evening and welcome. You are listening to Underground Sounds on CKUT, and I'm your host, Nick Schofield. Each week I have the honor of sharing new, exciting, and innovative music from Canada, especially with a local focus on artists from Montreal. Tonight is no exception. This is the Monday, December 7th, 2020 episode, and my feature tonight will be on Eve Parker Finley, who just released her debut album, Chrysalia. We will be listening to that album in full, but in the first hour of tonight's program, I will be sharing lots of new